par l'identité. C'est la partie la plus difficile de cette présentation, parce que c'est très difficile de définir l'identité. Je dirais a fortiori, sans ironie, de définir l'identité nationale. Mais c'est vraiment un casse-tête pour tous les philosophes, depuis de tous les temps, de définir l'identité. Parce que, c'est une chose que vous pouvez très bien comprendre, c'est qu'il n'y a que deux notions. L'identité, elle ne s'adresse qu'à une seule chose. Une chose est identique à elle-même, c'est la seule chose qu'on peut dire. Ça, au moins, c'est sûr. Mais que deux choses sont jamais identiques, tout simplement parce qu'elles sont déjà deux. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas au même endroit. En général, elles ne sont pas nées en même temps. C'est très difficile de dire que deux choses sont identiques. Il faut faire abstraction de beaucoup de choses. Donc, en fait, on peut dire que des choses sont très ressemblantes, qu'elles sont parfaitement semblables, mais c'est quasiment impossible de dire que deux choses sont identiques. Je veux dire, si vous prenez un monument et puis que vous en faites une reproduction à l'identique, comme on dit, ben vous avez deux monuments. Il y a un premier, il y a un second. Il y en a un qui a été construit avant l'autre. Et donc, ils ne sont pas parfaitement identiques. Donc, en bonne logique, en toute logique, l'identité ne caractérise qu'une chose toute seule. Donc, ça ne nous avance pas beaucoup. Alors, les caractéristiques de l'identité, comme vous le voyez sur la diapositive, c'est quelque chose qui reste le même dans la durée. Gros problème, parce qu'il n'y a pratiquement rien qui reste le même dans la durée, malgré les apparences. Et puis, c'est une chose qui est différente de toute autre chose. Alors, il y a un principe de philosophie, je l'indique pour ceux qui en feront un peu plus tard, ou qui sont en terminale, qui s'appelle le principe d'identité des indiscernables. C'est-à-dire que deux choses sont identiques si elles ont absolument toutes leurs propriétés en commun. Et à ce moment-là, elles sont indiscernables, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la même. Mais comme je vous ai dit, c'est très difficile pour deux choses d'avoir toutes leurs propriétés en commun, ne serait-ce parce que, justement, il y a cette fameuse différence numérique. Elles sont deux. Deux jumeaux parfaits. Ils ont une identité génétique très très forte, mais néanmoins il y en a toujours un qui est né, qui est venu au monde avant l'autre, et ça se traduit sur les registres d'état civil. Ils sont deux, même s'ils sont parfaitement identiques. Alors en général, on utilise plutôt une notion affaiblie de l'identité en disant que une chose est identique à une autre quand elle partage beaucoup de choses avec elle, elle a beaucoup de propriétés en commun. Et elle est différente, elles sont en revanche différentes sous certains aspects. Alors, prenez le cas, c'est la colonne de droite, prenez le cas de l'identité d'un être humain et réfléchissez à votre numéro, ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Vous savez probablement comment il est constitué. Pour les garçons, c'est 1, le premier chiffre. Pour les filles, c'est 2. Hein. Votre numéro de sécurité sociale commence par la différence sexuelle. Il y a les mâles et les femelles, 1, 2. Ensuite, vous avez l'année de naissance, la terminaison de l'année de naissance. Donc, vous êtes né en 92. Donc, ça, c'est 2. Par exemple, si vous êtes une fille, c'est 2, 92, si vous êtes né en 1992. Et puis ensuite, il y a le mois. Si vous êtes né au mois de juillet, c'est 07. Et puis ensuite, il y a le département où vous êtes né, l'endroit où vous êtes né. Hein, si vous êtes né dans le 9-3 ou si vous êtes né dans le 78. Et puis ensuite, il y a votre numéro sur le registre des naissances. Et c'est ça qui fera la différence entre deux vrais jumeaux. Ils auront effectivement le même sexe, seront nés la même année, le même mois, dans le même département. Mais il y en a un qui est inscrit avant l'autre sur le registre des naissances. Ce qui fait qu'il y aura deux numéros, ils auront deux numéros d'identité qui seront différents. Même s'ils sont très très ressemblants, ils seront quand même différents. Alors vous avez votre identité génétique, hein, ce qu'on identifie justement à travers les fameuses preuves ADN, c'est on examine à travers un prélèvement sur vos cellules le stock de gènes. Et ben vous avez 23 paires de chromosomes, dont une paire sexuelle XX ou XY. Bon. Mais même l'identité génétique, dans le détail, quand on fait un déchiffrement du génome, ben il y a des variations entre des gens qui ont, entre des vrais jumeaux, il y a quelques petites variations dans l'identité génétique. Alors, donc, ce qui est important pour penser l'identité, c'est toujours penser sous quel aspect on est identique et sous quel aspect on est différent. Ça, c'est très facile à comprendre. Hein. Si vous dites deux choses sont identiques sous un certain aspect, hein, prenez deux voitures qui sont sensiblement de la même... Même moment de production, même chaîne de production, elles sont identiques sous certains aspects. Hein, sous beaucoup d'aspects, la couleur, la cylindrée, les performances, l'équipement de pneus, etc. Hein, néanmoins, elles sont différentes sous certains aspects. Et j'ai un ami toujours qui était fils d'un ouvrier qui avait travaillé sur les chaînes, à l'époque, une marque d'automobile française qui a disparu, Simca. Vous avez peut-être entendu parler vaguement de la Simca. Et les ouvriers achetaient des voitures, souvent. Ensuite, ils avaient même le droit de les revendre, ils les achetaient avec des réductions. Mais il y avait, par exemple, une grande différence, me disait-il, entre les voitures du lundi et les voitures du mercredi. Parce que le lundi, tout le monde n'était pas présent sur les chaînes. Il y avait des gens qui étaient malades ou qui prolongeaient le week-end, etc. En revanche, le mercredi, tout le monde était sur les chaînes. Donc eux, ils achetaient toujours des voitures du mercredi. C'était les mêmes. Hein, simplement, une voiture du mercredi était en général beaucoup mieux faite, beaucoup mieux finie qu'une voiture du lundi. Donc vous voyez, c'est aujourd'hui avec les robots, je pense que ça a dû changer. Mais c'était les mêmes voitures et néanmoins, sous certains aspects, ne serait-ce qu'en termes de panne, celle du mercredi tombait moins en panne que celle du lundi ou celle du vendredi. Sous un certain aspect, sous l'aspect jour de fabrication, les voitures étaient différentes. Donc, vous avez toujours à prendre en compte, je veux dire, la différence, l'aspect. Alors, par exemple, je suis un. Si vous comparez à un animal, vous êtes un être vivant, comme l'animal, vous êtes un être vivant comme une bactérie, hein, mais. Sous l'aspect de l'animalité, vous n'êtes pas un animal. Je suis un être humain comme vous, mais je suis semblable à ceux qui sont des hommes ici, et je ne suis pas semblable à ceux qui sont à celles qui sont des femmes. Je suis un être humain, mais j'ai pas le même âge que vous. Sous le rapport de l'âge, je suis différent de vous. Je ne suis pas identique. En revanche, quelqu'un qui est de ma classe d'âge, il est identique à moi du point de vue de la classe d'âge. Hein. Donc. Voilà, toujours prendre en considération pour l'identité la question sous quel aspect c'est identique, sous quel aspect c'est différent. Et puis, vous avez la question de la durée. Être resté le même dans la durée ou être différent dans la durée. Alors là, je dirais que vous-même, même une chose qui est identique, elle va varier à travers la durée. Elle ne sera pas la même au fil du temps. Alors il y a des changements pour les êtres vivants, c'est des changements du métabolisme, c'est des renouvellements cellulaires, c'est des vieillissements et donc des altérations génétiques. Vous allez prendre certaines maladies du fait que certaines opérations de réplication de l'ADN ou de transcription se font mal, donc vous allez changer. Et je dirais que ces changements au fil du temps, alors nous pensons que nous restons les mêmes. Nous, êtres humains, nous pensons que nous restons les mêmes. Cela dit, si vous regardez une photographie quand vous étiez tout petit, une photographie maintenant et puis une photographie de vous dans 20 ans, d'aspect, vous serez singulièrement différent. Hein, et ne parlons pas quand on a mon âge. Mais je dirais cette différence à travers le temps, elle est très nette aussi pour les choses. Un bâtiment, par exemple, un bâtiment... Il a une histoire, il se renouvelle, on le rénove, on fait des opérations de réaménagement. C'est le même bâtiment, mais beaucoup de choses ont changé. Un navire, c'est pareil. Un navire est régulièrement réparé, reconstruit. C'est le même, mais les matériaux ont changé. Et je dirais que même une pierre, elle change. Bon, vous n'avez plus tellement d'expérience de la nature, mais par exemple, quand vous prenez une pierre qui est extraite d'une carrière, qui est une pierre qu'on appelle vive, pierre vivante, elle a une sorte de dureté, de compacité, des propriétés chimiques, que 10 ans après, elle n'a plus. 10 ans après, avec l'effet des éléments, de la pluie, du soleil, des pollutions, elle est devenue une pierre qu'on appelle morte. Elle change de propriété physique, elle change, change de propriété chimique, mais elle change aussi de propriété physique. Elle ne pèse pas le même poids, elle est plus friable, elle est plus facile ou plus difficile, elle est plus facile à tailler, etc., etc. Donc chaque fois, vous devez considérer aussi, je dirais, comment l'identité fonctionne dans la durée. Encore une fois, nous restons les mêmes, mais je dirais, sous quel aspect restons-nous les mêmes ? Ben voilà, ça c'est la même et pas la même. J'ai pris Sharon Stone, 1987-2007. Et encore, c'est pas complètement juste parce que, en dépit de ce qu'elle dit, elle a recours à la chirurgie esthétique, moins que d'autres actrices, mais elle a recours. Donc, elle arrête les changements. Et puis c'est pris sur quand même une période de temps relativement différente. Mais vous voyez quand même qu'elle a vieilli, tout en étant splendide, en 11 ans, elle a vieilli. Si vous voyez mieux l'image de droite, vous verriez qu'elle a quelques rides, etc. Elle n'a pas trop été soignée au Botox, etc. etc. Voilà sur l'identité. Alors, le problème de l'identité personnelle, parce que je m'attarde surtout sur l'identité, parce que vous allez voir que ça pose ensuite tout de suite le problème des communautés. Le problème de l'identité personnelle, c'est qu'est-ce qui reste le même ? Qu'est-ce qui reste pour nous ? Pas pour les cailloux, ni pour les bateaux, ni pour les... Qu'est-ce qui reste pareil, qui fait que nous pouvons dire que nous sommes, je suis toujours le même et que je suis resté identique et que j'ai ma propre identité ? Alors le corps, encore une fois... Oui, jusqu'à un certain point. Et puis, arrive un moment où les gens changent vraiment physiquement. Donc, le corps reste le même, mais il change beaucoup. Les données de la conscience, disons qu'en gros, ce qui vous passe par la tête et ce que vous ressentez, alors ça change tout le temps. Ça change tout le temps, tout simplement parce que vous avez des expériences différentes tout le temps. Vous êtes... Ce qui vous vient à la perception, ce qui vous vient à l'idée, ce sont des choses qui changent tout le temps. Donc, tous les philosophes ont toujours dit, si on s'appuie sur les données de la conscience, on ne trouvera jamais rien d'identique. C'était le philosophe David Hume, mais John Locke l'avait dit aussi, si, quand je regarde en moi, je ne trouve jamais rien de permanent. J'ai des idées, des sensations qui changent. Tout à l'heure, j'étais en voiture, on essayait de se retrouver dans Montreuil pour arriver là. J'avais toute une série de perceptions. Maintenant, je vous vois, j'ai l'ordinateur, j'ai ma présentation PowerPoint. Mon contenu de conscience est complètement différent. Bon, alors, qu'est-ce qui change ? Mes passions ? Alors oui, peut-être. Peut-être qu'elles changent moins, mes passions. Je suis quelqu'un de curieux, je suis un peu colérique, j'aime bien ne pas trop être sérieux, etc. Mais mes émotions, mes passions restent assez durables. Encore que vous verrez qu'avec le temps, ça change. Ça s'agit, ou on se lasse, etc. Mais les passions donnent quand même une base assez solide quand même pour... Et puis, il y a ce qu'on appelle le caractère. Alors, le caractère reste assez stable. Mais il a mis du temps à se former. Le caractère, c'est, je dirais, votre manière d'agir, et de réagir. Votre manière de prendre des décisions, votre manière de dire non, votre manière de nouer des amitiés. Ça, c'est votre caractère. Ce qui fait que vous avez tous des manières différentes, relativement différentes, de prendre des décisions, de temporiser, d'attendre, de vous mettre ou de ne pas vous mettre en colère, de croire ce qu'on vous dit ou pas directement. Donc ça, c'est des traits de caractère. Et puis, il y a une chose qui est forte, ça les philosophes ont reconnu que c'était la chose importante dans l'identité personnelle, c'est la conscience d'être le même. Parce que même si, ce que je sais, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je suis le même que celui qui était en voiture tout à l'heure et qui essayait de lire les noms de rue de Montreuil. Mon état de conscience à ce moment-là, c'était de regarder les noms de rue de Montreuil. Et puis maintenant, c'est de regarder mes diapositives et puis de vous les commenter. Mais je sais que c'est moi. J'ai la conscience d'être le même. Et c'est la réponse... pour l'identité personnelle, qui est la plus solide. mais elle est très pauvre en même temps. Si je vous dis, ben, je suis moi, ben oui, je sais que je suis moi, depuis ce matin, je sais que je suis moi. Hein, et puis je sais que je suis moi depuis un certain temps. Sauf que si je suis guetté par la maladie d'Alzheimer, y a un moment où je ne saurai plus que je suis moi. Et donc, qui je serai? Est-ce que je serai le même ou pas le même? Alors il y aura mon corps, ça c'est sûr. Mes passions, probablement, elles n'existeront plus, puisque j'agirai un peu automatiquement. Et je ne saurai plus que je suis moi. Donc je serai une sorte de, peut-être, dans, à l'état ultime, je serai peut-être une sorte de légume. Hein. Mais il me manquera la conscience d'être le même. Et sans parler de la maladie d'Alzheimer, qui à l'époque non pas existait pas, mais dont on ne parlait pas comme ça, le philosophe anglais du XVIIe siècle, John Locke, disait, au fond, l'identité personnelle, elle concerne tout ce dont nous nous souvenons, tout ce dont nous avons conscience que ça nous a appartenu à nous et que c'était nous. Et puis quand on n'a plus ce souvenir, ben, on n'est plus, on n'a plus d'identité personnelle, ou alors on en change. Et il donne l'exemple d'un type qui ne devait pas être loin d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais sous des formes différentes, un maire de Londres qui, sur ses vieux jours, se prenait pour Socrate. Et l'homme dit, bah, il n'était plus maire de Londres, il était Socrate. Hein? Bon, le problème, c'est que pour nous, c'est peut-être difficile à avaler, mais il dit, au fond, tant qu'il a conscience d'être lui-même, c'est bon. Maintenant qu'il a conscience d'être Socrate, c'est autre chose. Hein, alors il y aura des moyens de vérification sociale parce que on va pas accepter comme ça que vous disiez bon ben moi je suis Napoléon. Alors, en général on vous met à l'asile hein, si vous dites moi je suis Napoléon ou bien je suis le président de la République. Ouais, j'ai conscience d'être le président de la République. Mais il faut penser que très souvent on peut se faire des imaginations. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui reste le même? Je vous dis le corps un peu, pas beaucoup. Les données de la conscience, pas du tout. Les passions, un peu. Le caractère, oui, beaucoup. Et la conscience d'être le même, bah, tant qu'on a cette conscience-là. Alors, ce qui va jouer un rôle important, c'est le côté droit. Rassurez-vous, les images vont bientôt arriver. Du côté droit, c'est quelles sont les données de départ de ces histoires, comment se déroule l'histoire de notre vie, c'est-à-dire comment se déroulent les changements, comment est-ce qu'on... On vit ce mélange de données et d'histoire, et puis à quel groupe et collectif sociaux nous appartenons. Ça, c'est une manière très très solide, si vous voulez, de construire l'identité. C'est-à-dire, moi, je dis, moi, je suis Socrate. Bon, vous me direz, par rapport au groupe dans lequel nous sommes, non, on n'accepte pas. Tu es Yves Michaud, tu es. Rappelle-toi qui tu étais, voilà ton histoire, voilà ta biographie, mes proches vont me dire ça. Mais si j'étais dans un asile de fous, enfin, sous la forme ancienne, et que je rencontre un type qui se prend pour Napoléon, ben, je lui dis, moi je suis Socrate, il me dit, bien, enchanté, moi je suis Napoléon. Hein, c'est un autre groupe, si vous voulez. C'est là où les appartenances vont jouer. Les appartenances vont jouer. Il y a des endroits où vous pouvez dire, vous me direz, c'est des maisons de fous, mais ça existe, les maisons de fous. Il y a des gens qui peuvent se faire se monter des histoires. Donc vous allez avoir dans l'identité personnelle tout un aspect qui va maintenant arriver, qui est l'aspect, ce qui de l'identité personnelle provient de la communauté et des histoires qu'on raconte. Des histoires qu'on raconte sur nous. Comme quand vos parents vous disent, tu te rappelles quand tu étais petit, que tu faisais ceci, que tu aimais jouer à cela, et puis que tu allais à tel endroit, et bien ils vous racontent une histoire sur votre identité. Et en règle générale, vous l'acceptez, cette attribution d'identité. Hein? Sauf si vous êtes en conflit avec vos parents, et vous dites non, c'est toi qui t'imagines ça et qui veux me voir comme ça, etc. Hein? C'est des bons sujets, d'ailleurs, de conflit avec les parents, l'identité. Les parents vous disent, tu étais, toi qui étais si sage quand tu étais petit, regarde ce que tu es devenu. Hein? Et puis, vous dites, non, j'étais sage parce que j'étais trop petit et que je n'avais pas le droit de m'exprimer, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'est de ne pas être sage, etc., etc. Et je ne suis pas du tout comme vous pensez, etc., etc. C'est les conflits d'identité, vous devez en vivre. Réfléchissez à votre expérience, vous devez sûrement en vivre. Alors, je vous donne des exemples d'identité. Ça, j'ai pris des œuvres d'art contemporaines. Hein. Ça, c'est une photographie qui a été prise dans les rues de New York, enfin c'est posé, hein, c'est fabriqué, c'est un portrait, c'est un sans-domicile fixe de New York. Bon, il est lui, il a son identité, mais bon, y a plein de catégories de communautés qui arrivent. Hein, d'abord, il est noir, ensuite, c'est un SDF, il appartient à la communauté noire, un groupe, hein, et puis, c'est un sans-domicile fixe. Bon, il a les vêtements, hein, tels que typiques en quelque sorte, mais typiques au sens où, pas en termes de mode, mais comme habillé de briques et de broc, comme s'habillent pour survivre dans les rues les sans-domicile fixe. Donne un autre exemple. Alors là, on tombe tout de suite, on passe, si vous voulez, de l'identité collective, de l'identité personnelle à l'identité collective. C'est-à-dire que là, c'est deux personnes qui ont un numéro de sécurité. C'est une photo qui est très émouvante, parce que c'est une œuvre d'un artiste anglais qui s'appelle Richard Billingham, et qui a passé une partie de sa vie à photographier ses parents. Et ses parents viennent du sous-prolétariat. Hein, le père, il est usé par le travail, et la mère, elle est alcoolique, comme ça se voit. Hein, je veux dire, et c'est ses parents, donc c'est des individus qui ont leur identité, mais en même temps, ils appartiennent à la communauté du sous-prolétariat anglais. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai gardé l'autre diapositive. Oui, j'ai une autre diapositive de eux. C'est du sous-prolétariat anglais. Alors, si on regardait en détail l'image, si vous pouviez bien la voir, il y a toute la décoration qui est typiquement de la décoration prolétariat anglais, un petit peu à moitié kitsch et à moitié plein de brimborions qui ont été ramassés dans les foires, les choses comme ça. C'est leur identité, mais c'est aussi une identité sociale, collective. Ça se voit mieux dans la suivante, où elle lui apporte son breakfast, où elle lui apporte des œufs, elle lui apporte des choses, et puis on voit le papier peint, on voit toute la décoration qui est épouvantable. Mais c'est du... Là, la communauté, c'est la communauté d'une classe sociale. Hein, il fait partie, Richard Billingham, et ses parents ont comme origine sociale la classe prolétarienne anglaise. Alors, un autre exemple d'identité, là, c'est un photographe anglais que j'aime beaucoup, il s'appelle Martin Parr, qui aime bien photographier les gens, justement, dans leur appartenance sociale. Et qu'est-ce qu'il a fait, là? Il est allé à l'Acropole, et puis il a photographié les groupes de touristes. Bon, ben là, vous voyez que les identités, le groupe de Japonais que vous voyez au premier plan, ce sont des touristes japonais. Phénomène, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont japonais et ils sont touristes. Et ils se comportent comme des touristes. Donc, ils se font photographier devant le monument. Donc, vous voyez, ça, c'est des aspects par lesquels ils se ressemblent. Si ça se trouve, ils sont tous différents. Il y en a un qui est ingénieur, un autre qui est professeur, un troisième qui est rentier ou retraité, et un quatrième qui est acteur de théâtre. Non, ça serait d'autres groupes d'appartenance. Mais là, ils ont une appartenance collective en tant que un groupe, c'est un groupe de touristes japonais en Europe, sur un des lieux de fondation de notre civilisation, devant le Parthénon. Donc, ils se comportent comme un groupe doit se comporter. Leur identité, temporairement, c'est une identité temporaire d'être touriste, mais leur identité, c'est l'identité du groupe. Là, j'ai pris une photo d'une Hollandaise, Rineke Dijkstra. Bon, ben ça, c'est un groupe d'ados. De jeunes filles ados. Hein. C'est des toutes jeunes ados. Groupe collectif, identité collective. Alors il faudrait regarder en détail que les maillots de bain sont les mêmes, qu'il y a des constantes dans la coiffure, il y a des manières de poser aussi. Tout ça, c'est des choses collectives. Ça, c'est une autre identité collective. C'est une famille japonaise. Famille japonaise qui pose, alors avec l'habit traditionnel pour les parents, hein, au premier plan à droite, et puis la nouvelle génération qui est en habits occidentaux, la mère qui est en kimono, et puis ils posent dans un jardin japonais, et donc avec une nature complètement aménagée et contrôlée. Cela aussi, c'est une identité collective. C'est telle famille en tant que famille japonaise de bon milieu social, respectant les traditions et en même temps moderne. Vous voyez ? Identité collective. Identité collective. Et alors, l'identité collective, c'est comme l'identité individuelle. C'est-à-dire que c'est par certains aspects qu'on va définir. Ça va nous mener à la notion de communauté, bien évidemment. Alors ça, c'est une autre identité, c'est l'identité professionnelle. Identité professionnelle, ça fait partie de vos identités. Ici, il y a l'identité des profs, il y a l'identité de moi qui suis prof, il y a vous, votre identité qui est l'identité d'élève. Alors ça, c'est un artiste belge qui s'appelle Alice et qui travaille souvent au Mexique. Et vers la place du Zocalo, à Mexico City, les gens se louent pour la journée. Alors il y en a un qui est plombier, il y en a un autre qui est électricien, il y en a un autre qui fait du peintre et des plâtres. Et puis lui s'est mis et il me fait touriste. Il se loue comme touriste. Bon, c'est une œuvre d'art hein, contemporaine, mais vous voyez, c'est les identités. Hein. Il y en a qui sont plombiers, moi je suis touriste. Hein. Il aurait pu mettre artiste aussi s'il avait voulu. C'est son identité professionnelle, identité collective. C'est-à-dire que là, vous avez deux plombiers, par exemple, un électricien, etc. etc. Et puis, dans les identités, vous pouvez avoir les identités. Un plombier, en principe, il a plus ou moins choisi d'être plombier. Je dis bien en principe, parce que c'est pas certain qu'il ne soit pas arrivé là parce qu'il ne pouvait pas ou qu'il a pas trouvé à faire autre chose. Mais dans les identités collectives, il y a aussi celles qui vous sont imposées, celles qui vous sont collées comme des étiquettes. Alors ça, c'est l'identité coloniale. J'ai pris cet exemple, c'est un travail d'un... C'est le cas de l'identité coloniale. L'identité coloniale projette une certaine image sur le colonisé. Donc, vous avez et le colonisateur. Vous avez un stéréotype du colonisateur avec son casque colonial et un stéréotype du colonisé, beau, majestueux, assez sanguinaire, etc., etc. Vous voyez, c'est des identités pour... Alors maintenant, communauté. Ben, vous avez compris quand même... On a bien avancé, on a bien anticipé, avant que je passe à des exemples, une communauté, il n'y a pas 36... c'est très facile à définir, c'est un ensemble d'êtres humains qui partagent certains traits, certaines caractéristiques ou certains aspects. Un ensemble d'êtres humains qui partagent certains traits. Alors j'ai parlé tout à l'heure de celui qui se prend pour Socrate et celui qui se prend pour Napoléon. Ça, c'est une certain trait, une communauté, disons, de gens un petit peu fous, qui partagent des bizarreries de comportement. Des bizarreries de comportement. Et puis, vous pouvez partager des tas de traits différents. Et donc, ça donne des communautés qui seront extrêmement différentes aussi. C'est-à-dire que certaines vont être très temporaires. La communauté des gens qui sont tous dans le même autobus. Ça, c'est une communauté. Hein. Vous prenez l'autobus pendant un quart d'heure pour un trajet. Vous faites partie de la communauté des gens dans l'autobus. La preuve en est, d'ailleurs, c'est que s'il y a un accident, vous serez tous plus ou moins affectés par l'accident. Vous êtes dans le même bateau, ou plutôt vous êtes dans le même autobus. Et puis, il y a des communautés qui, si vous allez assister à un spectacle, ou si vous regardez un film, faites partie de la communauté des gens qui, des spectateurs. Et puis, il y a des communautés qui sont beaucoup plus stables. Là, vous êtes élève du lycée Matisse, vous êtes dans la communauté du lycée Matisse. Et ça dure un peu plus qu'un voyage en bus. Et alors, ce sur quoi j'insiste, c'est que la communauté, elle peut être passive, mais elle peut être aussi active. C'est-à-dire que vous pouvez partager certains traits, tout simplement parce que ça se trouve comme ça, et puis vous pouvez partager certains traits parce que vous voulez partager ces traits. Ou parce que vous avez décidé de les partager, ou que vous les endossez volontairement. Alors, par exemple, les traits qui sont partagés passivement, c'est que quand vous êtes né dans un village, vous y vivez, vous êtes de ce village. Vous êtes de chez vous. Vous êtes de ce village, vous êtes de votre communauté. Jusqu'au jour où vous déciderez d'en partir ou vous déciderez d'y rester. Donc, à ce moment-là, vous prendrez une décision active ou passive hein, sur la communauté. Mais au départ, vous êtes de tel endroit. Pour la plupart d'entre nous, être français, ça nous est arrivé comme ça, de naissance. Hein. On est né de parents français en France, point la ligne. Ça nous est arrivé comme ça. Je veux dire, on n'a pas choisi d'être français, on est français. Pour d'autres, la communauté française sera différente. C'est-à-dire que des gens vont venir, ils vont vouloir avoir la nationalité, avoir d'abord des papiers, ensuite avoir la nationalité, ils veulent être naturalisés. Là, ça sera une communauté de choix. Vous voyez la différence? Les communautés passives ou communautés de choix. C'est-à-dire que quand vous partagez certains traits, vous êtes dans une communauté, mais vous pouvez partager certains traits parce que vous ne pouvez pas faire autrement, en quelque sorte, et vous pouvez partager certains traits parce que vous décidez de les faire vôtres, ou que vous les revendiquez, ou que vous les défendez, ou que vous les avancez, peu importe. Hein. Bien. Alors, quelques exemples. Ça, c'est une communauté au départ volontaire qui ensuite devient involontaire. J'ai pris une image d'un membre de gang d'Amérique centrale, ce qu'on appelle les fameuses Maras, Amérique centrale et côte ouest des États-Unis, qui se caractérise par des tatouages, une communauté de groupe extrêmement forte, bien plus forte qu'une bande dans nos banlieues, des activités criminelles et très très violentes, et je dirais une appartenance au groupe très très forte. Elle est tellement forte que les gens se font tatouer. Et puis une fois qu'ils sont tatoués, hein, s'ils veulent quitter le groupe, ben ils peuvent toujours essayer. Et j'étais... alors on arrive aujourd'hui à détatouer les gens. On arrive. C'est des traitements qui sont très longs, qui sont très douloureux et qui sont très coûteux. Et j'étais au Pérou il y a 2 ans et j'ai discuté avec un responsable d'organisation humanitaire qui me disait qu'ils avaient des programmes justement pour aider les gens à se détatouer. Parce que si quelqu'un veut quitter un gang... Tant qu'il est tatoué, il ne peut pas. Ne serait-ce que par rapport à la police. Il sera toujours dans le gang. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en Amérique... Et même s'il est détatoué de la tête, souvent la police le fait lever son t-shirt et puis voir les tatouages qu'il a. Or, pour quitter un gang comme ça, il faut des heures et des heures de détatouage. Ça coûte horriblement cher et ça fait très mal. Hein, c'est des traitements au laser qui pulvérisent les bulles d'encre sous la peau. Et donc c'est tout à fait difficile. Mais voilà, ça c'était typiquement, si vous voulez, une identité collective. Je suis membre de la Mara 13 ou de la Mara 17, etc. Hein? Cette identité, elle correspond aussi à d'autres actes. Par exemple, j'ai tué tant de personnes. Hein? Souvent les gens disent, j'ai tué tant de personnes. Et donc c'est ça qui me qualifie aussi comme membre du gang. Et puis ensuite, ça se transforme. Alors quand vous vous faites tatouer, il est évident que vous, d'une certaine manière, vous le voulez. Donc c'est une communauté qui est active. Mais si vous voulez la quitter et que vous ne pouvez pas vous faire détatouer, vous faites toujours partie du gang et vous faites partie de la communauté de manière passive. Bon, là j'ai pris, je ne l'ai pas assez agrandi, excusez-moi, j'ai pris la couverture du DVD de Bienvenue chez les Ch'tis. Les Ch'tis, c'est un mélange de communauté active et de communauté passive. Parce que si vous êtes né à Lille et si vous êtes dans une famille du Nord et que vous avez pris l'accent ch'ti, que vous avez appris le langage ch'ti, etc., vous êtes ch'ti que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Mais si vous décidez de revendiquer votre appartenance en étant fier, par exemple, à ce moment-là, ça devient une communauté active. Vous entrez dans cette communauté-là activement, vous la revendiquez, vous l'assumez. C'est un peu le problème des gens qui ont des accents. En Angleterre, les accents locaux sont extrêmement différents. Et c'est tout à fait normal d'avoir son accent. En France, pendant très longtemps, on nous a appris à perdre notre accent. Il fallait que les gens du Midi ils parlent pointu, comme ils disaient, et pas qu'ils parlent avec l'accent. De la même manière, les gens du Nord, il fallait qu'ils parlent le français, et pas qu'ils parlent avec l'accent ch'ti. Aujourd'hui, vous avez des gens qui revendiquent plus leur appartenance locale, comme la région, les régions ont pris de l'importance, et que les gens sont contents d'avoir une inscription régionale. Vous avez des gens qui revendiquent leur accent, donc qui ne cherchent pas à le cacher, qui ne cherchent pas à le dissimuler. Pendant très longtemps, moi, on m'a dit que j'avais l'accent lyonnais, je suis de Lyon, et qu'il fallait pas que justement certaines... Par exemple, les Lyonnais prononcent fleuve. Hein, ils disent pas un fleuve, ils disent un fleuve. Hein, donc on me reprenait en me disant il faut que tu prononces en bon français, quoi, je veux dire. Et puis, le temps passant, Finalement, moi, je suis plutôt favorable, plutôt régionaliste. Je n'ai fait aucun effort quand je suis un peu fatigué et que je reprends mon accent naturel. Ça ne me gêne pas d'avoir une pointe d'accent lyonnais. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire aussi que je revendique mon appartenance à une certaine communauté. C'est pas... Alors, encore une autre revendication. Eh bien, ça, c'était... Alors, je vais vous le lire, mais... les bandes de supporters et être supporter, c'est un phénomène extrêmement clair, simple, lisible, d'appartenance communautaire. Vous décidez d'être supporter de tel club. Et puis alors maintenant, vous savez, moi je connais pas trop bien ces trucs, mais vous décidez d'être dans tel groupe de supporters. Hein, ils ont tous des noms, c'est des centres d'appartenance tribale, c'est un peu comme, c'est en moins grave, c'est un peu comme les maras, mais vous décidez d'être de la tribune sud ou de la tribune nord du Parc des Princes, et vous êtes dans tel groupe, et puis ça a des noms, et il y a des affrontements. Et là, voilà, c'est des bons exemples, si vous voulez, d'appartenance communautaire. Et là, ce que je vous montre, ça avait fait scandale à l'époque, le 29 mars 2008, Le 29 mars 2008, il y avait eu une rencontre à Paris, Lens contre le Paris Saint-Germain, et c'était après le succès des Ch'tis, hein, bienvenue chez les Ch'tis, et les supporters parisiens avaient mis pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les Ch'tis. Hein. C'était des insultes pour les Lensois, hein, évidemment. Il reprenait l'affaire d'Outreau, pédophile, chômeur, le haut taux de chômage de la région Nord, et consanguin, je ne sais pas pourquoi il disait consanguin d'ailleurs, mais c'était une manière de stigmatiser une communauté de la part d'une autre communauté. Et comme anecdote, je vous ai dit, je suis lyonnais, donc je fais partie d'une communauté de Rhône-Alpine, mais Lyon et Saint-Étienne sont distants de 60 km à peine, et il y a toujours une compétition très forte entre les deux villes, y compris au niveau sportif, au moment des derbies, ce qu'on appelle. Et à peu près quelques temps après cette grande banderole du Parc des Princes qui était très insultante et les Lyonnais avaient reçu l'équipe de Saint-Étienne et ils avaient mis une énorme banderole qui était très insultante aussi mais avec beaucoup d'humour. Ça couvrait tout le stade, hein. C'était pendant que vous mouriez au fond des mines, nous inventions le cinéma. C'était du genre, vous les Stéphanois, vous êtes des mineurs. Et nous, on a inventé le cinéma. Je veux dire, donc, c'est Louis Lumière, etc. C'était une manière d'affirmer les... Alors, encore une image. Ça, c'est vraiment la communauté. C'est les supporters, je crois, de Liverpool. Alors ça, le supporter anglais, c'est quelque chose. Hein. Je veux dire, il est déguisé comme un Indien. Il est peinturluré. Il a son accent, l'accent de Liverpool. Son type de boisson. En général, c'est la bière, mais pas n'importe quelle bière. Ça, c'est vraiment des appartenances communautaires tout à fait... Alors ça, je pense que je vous ai quand même bien expliqué que c'est qu'une identité individuelle et une identité collective. Hein. J'ai pris volontairement des... Alors ça, c'est une image que je vous commande, parce que sinon, elle ne vous dira rien. C'est que souvent, les identités... Alors, les identités collectives, si, voilà, c'est ça. C'est ça que je compare ces deux diapositives. Ça, c'est une identité collective vraiment un peu barbare. Hein. C'est-à-dire, c'est des prolos anglais... qui sont supporters de Liverpool et qui se conduisent comme des barbares. Hein. Mais vous pouvez aussi avoir des appartenances communautaires, je dirais, qui sont folkloriques et qui peuvent être à base culturelle et avec des bases culturelles tout à fait sympathiques et intéressantes. Et là, ce que je vous montre, la diapositive suivante, c'est une photo que j'ai prise moi-même au fin fond du Portugal, dans l'Alentejo. J'avais participé à un colloque de l'université d'Évora et on nous avait le soir, il faut bien occuper les gens qui participent aux conférences, donc on nous a amené une représentation folklorique et c'était tout à fait intéressant. Donc c'était de la musique, c'était des musiques chantées, des chœurs du Portugal profond, et ce qui était drôle, c'est que les gens s'étaient plus ou moins habillés habillés en paysans de l'Alentejo, c'est une région très agricole, à la fois très rude et très riche de l'agriculture. Ils s'étaient habillés, ils avaient des bérets, certains avaient des peaux de brebis, etc. Ils chantaient des chansons traditionnelles de l'Alentejo. Mais quand ils ont eu fini le concert, ils quittaient leur béret, ils quittaient leur peau de brebis, et puis vous voyez qu'il y en avait un qui était architecte, un autre qui était médecin, etc. Ils remontaient dans des grosses voitures, et ils rentraient chez eux, mener une vie de Portugais moderne, normale. Et donc, si vous voyez, périodiquement, ils reprenaient leur identité traditionnelle, qui est une identité largement fabriquée, puisque c'est l'identité de leurs arrière-grands-parents, de leurs grands-parents, si vous voulez. Parce qu'en fait, ils avaient tous plus ou moins des tenues de vachers, quoi, en quelque sorte, hein, de cowboys. Mais ils reprenaient cette identité, parce qu'elle avait de l'importance pour eux, et qu'ils se racontaient une histoire sur une identité familiale et une identité traditionnelle. Ça, c'était une identité culturelle choisie. Alors, je vais bientôt... Je m'achemine vers la fin parce que ça va aller très vite. Je vais maintenant venir à la question du communautarisme. Alors, pour poser la question du communautarisme, il faut partir de l'appartenance politique à une société démocratique. Nous sommes tous membres d'une société politique démocratique. Et donc, ces sociétés reposent sur ce que tout le monde appelle des droits abstraits et universels. C'est ce que vous trouvez dans le préambule de la Constitution, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De l'homme et du citoyen. Et qu'est-ce qui est proclamé là? Proclamé l'égalité absolue de tous les êtres humains, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas français, hein, et le refus de prendre en compte les particularités. Le refus de prendre en compte les particularismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un citoyen, un homme au sens des droits de l'homme, c'est un être humain libre, donc qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre, autonome, rationnel, raisonnable. On suppose que quand il va voter ou quand il se comporte dans la vie de tous les jours, il sait ce qu'il fait et il prend ses décisions de manière raisonnable et rationnelle. Et qui a une volonté. Il exprime sa volonté, et l'ensemble des volontés, ça forme une volonté commune, la volonté politique, la volonté générale. Alors, si vous posez des droits de l'homme et du citoyen, c'est la dernière ligne, ça veut dire que vous allez laisser de côté, tout de suite, les particularités, alors toutes les particularités, toutes. Donc, tout le monde est égal, tous sont des êtres humains, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs ou qu'ils soient jaunes, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux, qu'ils soient costauds ou qu'ils soient faibles ou qu'ils soient handicapés, on laisse de côté toutes les différences. Mais aussi, on va laisser de côté qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Moi, je veux dire, ça, c'est... On n'en tient pas compte. Il y a une égalité, comme je vous dis, universelle et abstraite. Alors, par rapport à la religion... Par rapport à la religion, qui est une des particularités importantes, ça pose une question de nécessité de laïcité et de neutralité. Laïcité et neutralité. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, vous ne devez pas faire état de votre religion, vous ne devez pas faire entrer en considération vos appartenances religieuses. Et de la même manière, ça touchera d'autres choses qui ne relèvent pas de la laïcité, mais par exemple la langue. Si vous êtes un citoyen du français, ben, votre langue, c'est le français. Voilà, c'est ça. Et votre particularité d'être occitan ou ch'ti, par exemple, elle n'a pas lieu d'être. Donc voilà, ça c'est le principe de l'appartenance politique démocratique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle maintenant communautarisme? Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a expliqué sur le communautarisme, mais je dirais que le communautarisme, d'abord, c'est une doctrine qui nous vient de l'Amérique du Nord, au départ. C'est vraiment une doctrine taillée sur mesure pour l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, mais ça, c'est un peu différent pour l'Amérique latine, que ce soit pour les États-Unis ou le Canada, vous avez des populations immigrantes qui ont exterminé ou chassé ou réduit à très peu de choses les premiers habitants. Les premiers habitants qui étaient des Indiens. C'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour les États-Unis. Hein ? Soit il y a eu des guerres d'extermination, soit tout simplement il y a eu des rapports de force et on les a contraints à se mettre dans des réserves. Donc, encore une fois, c'est vrai absolument pour le Canada, c'est vrai absolument pour les États-Unis. Et il se trouve en plus que les Américains et les Canadiens ont tout de suite été des démocrates. Donc la Révolution américaine, la Constitution anglaise qui régissait le Canada jusqu'à il y a peu, sont des constitutions qui sont démocratiques. C'est-à-dire, tous les hommes sont égaux, citoyens abstraits, ayant une volonté, libres, etc., etc. Bon, il s'est trouvé que, le temps aidant, il a fallu prendre en considération les populations autochtones. Qu'est-ce qu'on fait avec les Indiens, les derniers Cheyennes, avec les derniers Micmac, avec les derniers Kwakut, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce que c'était les premiers occupants. Ils ont leur culture, qui n'est pas une culture démocratique, c'est une culture de communauté indienne. Et ils ne manifestent pas tous la volonté de s'intégrer dans et d'abdiquer leur tradition et leur culture. Et donc l'idée de communautarisme est venue de l'idée que pour que certains puissent participer à la vie démocratique, il fallait que néanmoins ils restent inscrits dans le contexte de leur communauté et avec les particularités de leur communauté. Donc à la fois... Un Indien du Canada doit respecter les règles de la communauté démocratique canadienne, mais en même temps, il a droit à respecter certaines de ses traditions culturelles, de ses coutumes et de ses particularités. Par exemple, je veux dire, la chasse à la baleine. Par exemple, la chasse aux phoques. C'est des populations qui ont vécu dans un rapport très déterminé à la nature, en chassant la baleine, en chassant le phoque. Vous avez des pays démocratiques qui disent il faut sauvegarder les baleines, sauvegarder les phoques. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous condamnez les Indiens à ne plus garder leur tradition et à ne plus garder leur culture? Donc le communautarisme a été pensé, je dirais, pour... Disons, penser sa situation de certains groupes qui gardent leur culture au sein d'un groupe plus large avec des problèmes d'articulation qui se posent. Voilà. Alors, je dirais que le communautarisme, c'est l'idée que certains droits abstraits, je reviens à ma diapositive, c'est la dernière d'ailleurs, je crois, oui, c'est ça, certains droits abstraits de l'individu sont indissociables des caractéristiques tenant à son appartenance à des communautés. C'est-à-dire que Et un exemple qui serait tout à fait, qui serait beaucoup plus intelligible pour nous, c'est que il est évident que tous les êtres humains sont égaux, mais que être un homme ou être une femme, ça fait une différence néanmoins dans l'exercice des droits, dans la manière d'exercer les droits. Et donc c'est l'idée qu'on ne peut pas rester dans des communautés abstraites, mais qu'il faut respecter les valeurs, les cultures, les traditions de certaines communautés. Alors, maintenant, je conclue très rapidement, c'est tout simple. C'est-à-dire que l'argument communautariste a, disons, un vrai intérêt et une vraie base. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que nous sommes tout nus devant la société démocratique. C'est-à-dire, on n'est pas des êtres abstraits. Hein. On vient avec sa langue régionale ou sa langue... on a des religions, on fait partie de certains groupes, et donc on doit, je dirais, participer à la communauté démocratique, mais en même temps, il ne faut pas que ça nous condamne à refuser toutes les appartenances communautaires que nous avons par ailleurs. Alors, un exemple en France, au XIXe siècle, ça a été le cas pareil en Espagne, de la même manière en Espagne, un peu moins au XXe siècle, c'est qu'au nom de l'unité nationale, on a imposé en France l'usage du français, en Espagne l'usage du castillan. C'est-à-dire qu'il était interdit de parler le basque, il était interdit de parler le catalan, il était interdit de parler le valencien, etc., etc. Et en France, le processus a très bien marché, puisque les langues régionales n'existent quasiment plus. Vous avez une poignée de Bretons qui parlent le breton, une poignée d'Occitans qui parlent l'Occitan, mais en gros, les langues régionales en France n'existent plus. Alors que si vous allez en Catalogne ou si vous allez au Pays Basque, il y a là, de nouveau, il y a des gens qui parlent le catalan et qui parlent le basque, au lieu de parler l'espagnol, au lieu de parler le castillan. Donc sur ce cas-là, vous aurez par exemple en Espagne des gens qui revendiquent d'être membres de la communauté espagnole et en même temps d'être des Catalans à part entière ou d'être des Basques à part entière. Et puis d'autres qui diront que non, ils veulent faire sécession carrément, n'acceptent pas l'intégration à la communauté et ils essayent de prendre la sécession. Alors, la dernière remarque que je fais pour ouvrir aux questions, c'est la suivante, c'est que le communautarisme pose le seul problème, c'est quelles sont les appartenances communautaires qui sont contradictoires, fondamentalement contradictoires, avec l'appartenance démocratique. Ça, c'est un bon critère pour décider, pour discuter sur les questions. Si par exemple, la revendication de parler sa langue régionale est contraire à l'appartenance à la communauté démocratique? Oui ou non? Ça dépend, il faut en discuter. Est-ce que, par exemple, les prescriptions religieuses doivent être opposées aux principes démocratiques? Par exemple, si quelqu'un qui dirait que les filles ne doivent pas être éduquées. Dans le pays démocratique, on vous dira, tout être humain a droit à l'éducation. Bon. Certaines religions diront, notamment la religion musulmane, certaines tendances de la religion musulmane diront non, il ne faut pas éduquer les filles. Elles sont destinées à être mères de famille, point à la ligne. C'est-à-dire, à ce moment-là, est-ce que la revendication communautarienne, est-ce qu'elle est acceptable par rapport à l'appartenance au groupe démocratique? Et je dirais que chaque fois, il faut poser cette question-là. Et décider au coup par coup, au cas par cas, coup par coup, mais en prenant les choses très sérieusement, si on peut, est-ce que par exemple la chasse à la baleine au Nunavut, chez les Inuits, est-ce que la chasse à la baleine est contraire aux valeurs de la Constitution canadienne? Alors là, ça sera un problème avec les écologistes, hein, vous verrez, c'est évident, parce qu'il y a plein de Canadiens qui s'en foutent de la chasse à la baleine, et qui disent on peut très bien être démocrate et puis tuer des baleines. Et puis vous aurez des radicaux écologistes qui diront non, on ne peut pas du tout être démocrate et tuer des baleines. Hein? Et donc, il faut interdire aux Inuits leur... Mais alors les Inuits vont dire, mais vous nous niez en tant qu'être humain, parce que être Inuit, c'est manger de la baleine. Hein? Voilà. Bon, alors, je m'arrête là-dessus. Et puis, j'espère que ça vous a donné quelques matières à question. Hein? Voilà. Alors, on passe aux questions.